Vous écoutez, on lit pour vous.
Encore des obstacles pour les personnes handicapées en 2025. Un texte d'Éric Patnaud, paru le 21 juillet 2025 dans le journal Le Guide. L'intégration de personnes handicapées sur le marché du travail stagne au Québec, selon une étude réalisée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. En 2025, plus d'un million de personnes en situation de handicap se butent à des obstacles persistants à l'embauche, à l'intégration et au maintien en emploi. Une donnée qui n'étonne guère à la dynamique des handicapés de Granby et région, DHGR. Citation : Depuis la pandémie, c'est zéro puis une barre. On n'a aucune rétroaction d'employeurs qui nous ont interpellés pour nous demander ce qu'ils doivent faire, par exemple, comme travaux d'accessibilité. C'est au point mort et je pense que c'est pas mal partout pareil au Québec pour plusieurs raisons. Fin de citation, a avoué la directrice de la DHGR, Marie-Christine Hon. L'étude de la commission révèle que 93 % des personnes en situation de handicap interrogées ont connu des trajectoires professionnelles très difficiles, caractérisées par l'instabilité et la précarité. Autre statistique, 83 % des personnes consultées soutiennent avoir vécu au moins une forme de harcèlement en lien avec leur handicap dans leur parcours professionnel. Selon la porte-parole de la DHGR, le portrait de l'intégration des personnes handicapées stagne en dépit des campagnes publicitaires mobilisatrices lancées ces dernières années. Citation : Il est vrai que le manque de scolarisation peut être un frein à l'intégration, mais la méconnaissance de la différence est encore bien présente. Ellipse. Souvent, la formulation des offres d'emploi ne laisse pas beaucoup de chance aux personnes handicapées. Fin de citation. Au Québec, 21 % des personnes en âge de travailler présentent au moins une incapacité qui les limite dans leurs activités quotidiennes, selon la Commission. On fait allusion ici à une déficience auditive, intellectuelle, langagière, organique, visuelle ou à des troubles d'apprentissage, de santé mentale ou du spectre de l'autisme. Citation : Il y a encore cette image de la personne handicapée, pas capable. Fin de citation, Marie-Christine Hon. Les préjugés. Au dire de Madame Hon, les préjugés, parenthèse, NDLR, une personne en fauteuil roulant dérange, une personne à mobilité réduite a nécessairement un handicap intellectuel, fin de parenthèse, sont encore omniprésents en 2025. Citation, à Granby, honnêtement, je ne vois pas d'évolution. Sur le plan de l'inclusivité au travail, ce n'est pas top. Il y a énormément de préjugés et de travail à faire. Fin de citation, soutient la représentante de la DHGR. Au sein de la fonction publique, la situation de l'employabilité chez les personnes handicapées n'est pas non plus à son mieux. En 1984, le gouvernement québécois s'était donné l'objectif d'avoir 2 % de personnes handicapées parmi son contingent de fonctionnaires. Quatre décennies plus tard, cette cible n'a pas été atteinte, 1,4%. Citation : Le gouvernement n'est pas exemplaire, mais il fait ce qu'il peut. Fin de citation, a philosophé Madame Hon. C'était « Encore des obstacles pour les personnes handicapées en 2025 », un texte d'Éric Patnaud, paru le 21 juillet 2025 dans le journal Le Guide.
Deux fois plus d'élèves dans les classes ordinaires. Un texte de Léa Carrier paru le 14 juillet 2025 dans La Presse. Le nombre d'élèves à besoins particuliers ne cesse d'augmenter au secondaire. Ils étaient 155 000 élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage en 2024-2025, contre un peu moins de 100 000 en 2014-2015, selon les plus récentes données du ministère de l'Éducation. Ils représentent aujourd'hui près d'un élève sur trois, 31 % contre un élève sur quatre, 26 % il y a 10 ans. La hausse est essentiellement concentrée dans les classes ordinaires, où leur nombre a explosé dans les dernières années, passant de 61 000 en 2014-2015 à 117 000 en 2024-2025. En fait, la grande majorité d'entre eux, 75 % se trouvent dans les classes ordinaires, où ils sont mélangés avec les autres élèves. Par comparaison, l'augmentation est beaucoup moins frappante aux primaires, où ils étaient 98 000 enfants avec des besoins particuliers en classe ordinaire en 2024-2025, contre 80 000 en 2014-2015. Une différence qui peut s'expliquer par le fait que les attentes sont plus élevées au secondaire, explique Mélanie Paris, professeure au département de psychopédagogie à l'Université de Montréal. La manière d'évaluer les élèves est différente entre le primaire et le secondaire. Ça peut amener plus de retard et de difficultés, dit Mélanie Paris. Diagnostic en hausse. Le ministère de l'Éducation définit les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage comme ceux ayant un plan d'intervention. Un plan d'intervention est un outil mis en place pour soutenir la réussite scolaire des élèves avec des défis particuliers. Il prévoit des mesures d'aide adaptées à chacun, par exemple laisser plus de temps pendant les examens ou permettre l'accès à des outils technologiques. Autisme, trouble du déficit de l'attention ou du comportement, déficience intellectuelle ou motrice. Les élèves qui bénéficient d'un plan d'intervention présentent une variété de handicaps plus ou moins graves. Leur augmentation peut être attribuable à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation des diagnostics. Il y a 10 ans, on entendait très peu parler d'enfants dits doués ou de neurodivergence, illustre Mélanie Tremblay, professeure de sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Aujourd'hui, autant les intervenants scolaires que les parents sont plus sensibilisés à la différence. On permet davantage de s'adapter à la réalité de chaque élève. En contrepartie, ça prend des plans d'intervention, note-t-elle. Des coupes qui se font sentir. Les enseignants déplorent depuis quelques années le nombre de plus en plus élevé d'élèves en difficulté dans les classes ordinaires. Certains rapportent avoir jusqu'à 15 jeunes avec des plans d'intervention dans un groupe d'une trentaine d'élèves. Le fait que les classes soient plus hétérogènes entraîne des défis réels, soutient Nancy Gaudreau, professeur au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval. Plus j'ai une grande disparité entre la nature des besoins des élèves, plus ça va me demander de connaissances et de capacités à adapter mes activités d'apprentissage, ajoute-t-elle. Et cela risque d'être encore pire avec l'effort budgétaire demandé au réseau de l'éducation, craint-elle. Ça va être la clientèle la plus touchée par les compressions budgétaires. Ce qui va être coupé, ce sont des postes d'orthopédagogues, de tous ceux qui leur viennent en aide, déplore Mme Gaudreau. Une intégration bénéfique. Pour les élèves présentant les troubles les plus graves, il existe les classes spécialisées, également appelées classes en adaptation scolaire. Or, leur nombre n'a sensiblement pas augmenté depuis 10 ans au secondaire. On a limité la progression des classes spécialisées dans les centres de services scolaires pour favoriser une diversité dans les classes régulières, explique Mélanie Paris. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il a été démontré que les jeunes qui sont intégrés aux classes ordinaires réussissent généralement mieux, soutient-elle. En outre, les classes d'adaptation scolaire sont parmi les plus durement touchées par la pénurie de personnel qualifié. Il faut faire attention quand on pense qu'une classe spécialisée va répondre à tous les besoins. Il y en a pour qui oui, mais il ne faut pas penser que c'est une panacée, résume la professeure spécialiste de la différenciation pédagogique. C'est surtout pour les personnes qui ont un très, très grand retard. C'était 2 fois plus d'élèves dans les classes ordinaires. Un texte de Léa Carrier paru le 14 juillet 2025 dans la presse.
L'auberge, la clé des champs sur la corde raide. Un texte de Véronique Duval paru le 16 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada. L'auberge La Clé des Champs, à Saint-Cyprien, traverse une période orageuse qui met en péril sa mission. Après avoir vu ses 8 locataires souffrant de déficiences physiques relocalisés en juin par le CIS, c'est maintenant le volet des séjours pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme qui se trouve menacé. L'automne dernier, le conseil d'administration avait pris la décision de mettre les répits et les camps sur pause en réponse à l'importante crise financière à laquelle l'organisme à but non lucratif faisait face, le temps de trouver des solutions pérennes. Il y a eu de meilleures périodes que d'autres, il y a eu différentes directions, différentes façons de penser, qui nous ont amenés où on est aujourd'hui. Maintenant, nous, on veut une auberge Clé des Champs 2.0, affirme la nouvelle responsable des programmes qui vient tout juste d'entrer en poste, Marie-Claude Mailloux. C'est grâce à une subvention inespérée du ministère de l'Éducation que le service a pu être rétabli cet été. Mais si d'ici un an, l'organisme ne trouve pas d'autres sources de financement, l'établissement, qui fête ses 31 ans d'existence cette année, ne pourra plus réaliser sa mission. Sans cette subvention-là, on n'aurait pas pu continuer. C'est vraiment elle qui fait qu'on a ça cet été, souligne Madame Mailloux. Elle évalue que son organisme à but non lucratif aurait besoin d'un financement récurrent d'un minimum de 450 000 $ par année pour assurer sa mission de base, en offrant des salaires décents à ses employés et un service de qualité. Le but, c'est d'être le plus sécuritaire possible et d'avoir de belles activités, explique-t-elle, en soulignant au passage que les demandes se font nombreuses de la part des familles, allant de Rimouski jusqu'à Québec, ou même parfois Montréal, car la réputation et la beauté de l'endroit transcendent les distances. Les membres du conseil d'administration qui sont en place travaillent excessivement fort pour maintenir la mission. C'est des gens de cœur qui y croient vraiment très, très fort, qui travaillent depuis des années, témoigne-t-elle. Ce qu'on veut, nous, c'est que l'auberge termine le passage orageux et qu'on puisse continuer d'offrir des services de qualité le plus longtemps possible, affirme Madame Mailloux. Un service essentiel sous-financé. Le prochain camp de vacances accueillera 40 participants qui seront accompagnés nuit et jour par une douzaine d'intervenants pendant 11 nuitées, permettant ainsi à leurs proches aidants ou aux ressources de type familial de bénéficier d'un répit essentiel. Le répit permet aux parents de juste reprendre un petit peu de souffle, puis de continuer un petit bout, explique Caroline Lavoie, chargée de projet pour Répit Québec. Lors de la dernière campagne électorale, la Coalition Avenir Québec, CAQ, avait promis l'ajout de 500 places dans les centres de répit pour soutenir les parents d'enfants handicapés en investissant 100 millions de dollars. En avril 2023, Québec a annoncé une aide de 50 millions de dollars sur 5 ans aux organismes qui offrent des services de répit pour les familles qui vivent avec une personne en situation de handicap. Pour Madame Lavoie, le financement actuel des quelque 265 organismes québécois qui offrent du répit aux familles et aux proches de personnes en situation de handicap qui sont enregistrés auprès de son organisation n'est toujours pas suffisant. Distinction entre une maladie mentale et une déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle, DI, est un état permanent qui survient avant l'âge de 18 ans. Ce n'est pas une maladie. Elle est présente pour toute la vie de la personne. Jean-François Rancourt, analyste des politiques publiques et conseiller en défense des droits à la SQDI, remarque une inadéquation entre les besoins de la population vivant avec une déficience intellectuelle et le financement des services dont ils ont besoin. La grande majorité de ces personnes-là vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est des personnes qui sont 2 à 3 fois plus à risque d'être victimes de différents types d'abus. Elles sont extrêmement vulnérables et, comme société, on tend à faire le choix de les laisser un peu de côté. En attendant, l'auberge cherche une nouvelle vocation pour ses 9 appartements adaptés laissés vacants. Elle loue des chambres aux visiteurs et voyageurs dans une aile indépendante du reste du bâtiment et elle loue une autre partie de ses locaux au 6 du Bas-Saint-Laurent pour le CLSC, un CHLSD et le projet pilote d'unité de réadaptation comportementale, URSI. L'organisme se dit d'ailleurs en consultation avec Santé Québec pour voir comment travailler ensemble pour assurer le maintien des services de l'auberge dont les patients du CIS bénéficient malgré la situation actuelle de restrictions budgétaires. Ce qui est important pour nous, c'est de prendre le temps de discuter avec le CIS, leur expliquer quels sont nos réels besoins. On ne veut pas aller dans l'exagération. On veut juste pouvoir offrir le service parce que les gens du CIS ont besoin de nous et nous, on a besoin d'eux, conclut la responsable de l'auberge. C'était l'auberge La clé des champs sur la corde raide, un texte de Véronique Duval, paru le 16 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada.
Passionné de sport au-delà de son handicap. Un texte de Cassandra Lebel, paru le 20 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada. Les limitations physiques ne sont plus des excuses pour Mathieu Blais, qui vit avec le syndrome de Crouzon depuis maintenant près de 30 ans. Chaque jour, il s'entraîne en salle, il fait du karaté et il s'est même mis à la course récemment. Il est loin de vouloir abandonner. « Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais arrêté », confie-t-il. « Ça m'a permis de me bâtir une grande confiance en moi et une immense carapace aussi. » L'enfance de Mathieu n'a pas été des plus faciles. Il a longtemps été intimidé en raison de sa maladie. Le syndrome de Crouzon est une maladie rare qui affecte le développement du crâne et du cerveau. À sa naissance, les os de son crâne et de son visage se sont soudés ensemble. Au début, à la maternelle, je n'étais pas trop conscient de ce qui se passait, avoue-t-il. Mais plus tard, ça a dégénéré. Au primaire, je me faisais juger constamment. Il disait « Ah, regardez, il a les yeux qui lui sortent de la tête ». Sa maladie l'empêchait également de bien entendre, ce qui le limitait aussi dans les apprentissages qu'il pouvait faire à la maison comme un enfant normal, dit-il. Cela aussi aurait contribué à l'intimidation qu'il a subie. Pourtant, Mathieu Blais se dit reconnaissant, aujourd'hui, d'avoir vécu cette expérience. Citation « Au final, je ne leur en veux pas. Ils n'étaient pas conscients de leurs actes, mais c'est aussi grâce à ça que j'ai pu me pousser à ne jamais abandonner. Je me sens bien dans ma peau, puis plus rien ne m'arrête. » Fin de citation. Maintenant, Mathieu n'a qu'un objectif, il souhaite inspirer les autres et montrer aux gens que les personnes handicapées, il ne faut pas les sous-estimer. Elles sont bien plus fortes que vous le pensez. Un de ses rêves serait de rencontrer son idole, Georges Saint-Pierre. Citation « Ce n'est pas comparable les vies qu'on a vécues, mais lui aussi, il a subi de l'intimidation et c'est grâce aux arts martiaux qu'il s'est bâti une carapace. Ça me rejoint. » Fin de citation. C'était « Passionné de sport au-delà de son handicap », un texte de Cassandra Lebel, paru le 20 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada.
Chartwell grossit dans le marché des résidences pour aînés au Québec. un texte de Martin Vallière paru le 15 juillet 2025 dans La Presse. À Montréal, l'entreprise d'origine torontoise acquiert le complexe résidentiel pour aînés des Tours en Grignon, voisin du parc du même nom dans l'arrondissement de La Salle, pour une somme annoncée de 88,5 millions de dollars. À Terrebonne, Chartwell investit 34 millions dans l'agrandissement de la résidence Chartwell des Mille-Îles avec l'ajout de 91 appartements pour aînés autonomes dans l'immeuble qui en compte déjà 226. À Vaudreuil-Dorion, Chartwell et un partenaire québécois, EMD Batimo, lancent un projet d'agrandissement annoncé à 170 millions pour l'ajout de 247 logements à la résidence de retraite Le Prescott. À la fin de ces travaux d'agrandissement, prévus en fin d'année 2026, le complexe résidentiel comptera près de 500 unités pour personnes âgées, dont une vingtaine pour les personnes dites en vie assistée. Entre-temps, toujours à Vaudreuil-Dorion, Chartwell et EMB Batimo sont partenaires à part égale dans le développement d'un immeuble de 187 appartements sur 14 étages pour les adultes actifs et autonomes de 55 ans et plus. Cet immeuble, nommé Lib Vaudreuil-Dorion, est adjacent à la résidence de personnes âgées Le Prescott de Chartwell. Après Québec, l'annonce de ces investissements additionnels de Chartwell dans le marché des résidences pour aînés au Québec survient quelques mois après que l'entreprise d'origine torontoise eut réalisé une série d'acquisitions dans la région de la capitale québécoise. Entre autres, dans le quartier Beauport à Québec, Chartwell a acquis la résidence Le Florilège de 345 unités pour personnes âgées, dont 36 en unités de soins, pour un montant annoncé de 112,9 millions de dollars. Dans le quartier Cap-Rouge, en banlieue ouest de Québec, Chartwell a acquis la résidence de retraite L'Envol de 360 appartements, dont 36 en unités de soins, pour un montant annoncé de 117,8 millions. Dans le quartier Charlebourg à Québec, Chartwell a déboursé 17,2 millions pour l'acquisition de la part restante de 15% de la propriété de l'immeuble Chartwell Très Carré, qui comprend 361 appartements pour personnes âgées, dont 37 en unités de soins. Selon Jonathan Boulakia, directeur des investissements chez Chartwell, cette croissance dans le marché des résidences pour aînés au Québec vise à développer des propriétés dans des emplacements stratégiques qui sont très attrayants pour les aînés, tout en soutenant des rendements solides et une création de valeur à long terme pour l'entreprise et ses investisseurs. Avec les acquisitions et les agrandissements annoncés récemment, le parc immobilier de Chartwell au Québec devrait passer le cap des 10 000 appartements pour aînés dans une trentaine d'immeubles localisés dans les principales régions urbanisées de la province. Établie à Mississauga, en banlieue ouest de Toronto, l'entreprise Chartwell Retirement Residences est en fait une fiducie de revenus immobiliers qui est spécialisée dans les résidences de retraite et dont les parts de fiducie, au lieu d'actions, sont cotées à la Bourse de Toronto. En date du lundi 14 juillet, avec ses parts proches de leur tout récent sommet historique de 18,59 $ par unité, en hausse de 40 % sur un an, la capitalisation boursière totale de Chartwell s'affichait aux environs de 5,2 milliards de dollars. De l'avis d'analystes, les prochains revenus annuels totaux de Chartwell en 2025 sont prévus aux environs de 1,1 milliard de dollars, en hausse de 18 % sur un an. Quant à la valeur annualisée de ces distributions de revenus parmi les détenteurs de ces parts de fiducie, elle est anticipée aux environs de 173 millions, en hausse de 6 % sur un an. C'était Chartwell grossit dans le marché des résidences pour aînés au Québec. Un texte de Martin Vallière paru le 15 juillet 2025 dans La Presse.
La voile adaptée à Le vent dans les voiles en estrie, un texte de Laurence Trahan et Lounan Charpentier, paru le 19 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada. La voile adaptée gagne en popularité auprès d'athlètes en situation de handicap depuis quelques années. Sur le petit lac Magog, un des seuls endroits au Québec à offrir cette possibilité, les entraînements se succèdent tout au long de l'été. Jasmine Côté a un handicap physique depuis 2018. Elle est adepte de la voile depuis toujours. Sa canne et ses attelles ne l'ont pas arrêtée. Grâce à un partenariat avec Aquasport Adapté Estrie, au petit lac Magog, elle peut louer une embarcation contrôlable en position assise et naviguer en toute sécurité. Une quille de plomb empêche notamment l'embarcation de chavirer. Citation. Quand j'ai su qu'on pouvait faire de la voile ici et que c'était accessible pour les personnes avec un handicap, je me suis tout de suite inscrite. J'adore ça, j'en fais autant que je peux. Fin de citation, lance-t-elle. Aquasport Adapté Estrie offre toutes sortes d'équipements adaptés, indique le président de cet organisme, Steve Tessier. S'il y en a qui ont des problèmes de mobilité, on a des joysticks, comme sur un fauteuil roulant, qui permettent de contrôler le gouvernail. Pour ceux qui ne peuvent pas utiliser leurs mains, on a des pailles qui permettent de contrôler le mât et le gouvernail, explique-t-il. Pour Jean Aymon, directeur de l'école de voile du club nautique du Petit Lac Magog, c'est un bonheur de voir des gens comme Jasmine si passionnés. Dans sa vie, c'est une chose importante. C'est ça qui fait toute la différence pour certaines personnes, dit-il. Monsieur Aymon transmet sa passion à une trentaine de para-athlètes cet été, une mission qui se donne depuis 25 ans. Imaginez, vous êtes en fauteuil roulant, vous êtes confiné à votre fauteuil. Et là, vous avez la liberté d'aller sur l'eau et de diriger votre propre voilier. Il note que cette liberté a toutefois des limites. L'accès restreint au transport adapté et le manque de financement peuvent limiter le développement de ce sport, souligne-t-il. C'est certain qu'on est toujours à la recherche de dons, ajoute Steve Tessier, qui souligne le manque chronique de bénévoles et de fonds pour ce genre d'initiative. C'était « La voile adaptée à le vent dans les voiles en estrie », un texte de Laurence Trahan et Lounan Charpentier, paru le 19 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada.